I put a spell on you.
Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jacques et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dealers sont mieux de prendre leur trottin.
Et c'est inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, son. What's your name?
Murphy.
Je suis un porc! Je suis une ordure! Ah! Je suis pourri! Je suis lépreux!
I put a spell on you. Because you're mad.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 7e Antiquaire, votre émission de cinéma aux proportions cosmiques. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et bienvenue à ma nouvelle voix. Je suis en train de faire le montage actuellement de l'émission que j'ai fait il y a deux semaines maintenant, avant mon opération corde vocale, puis j'étais pas stable, honnêtement, j'étais pas quelqu'un qui était... En fait, on sent l'anxiété dans l'émission, je vais quand même la conserver, mais je vais être très 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 honnête par rapport à ce qui s'est passé. J'étais stressé, ça faisait deux ans que je m'étais pas fait opérer, je savais pas qu'est-ce qui en découlerait, je savais pas c'était quoi les résultats, comment que ma voix en sortirait. Puis ça a été une assez gigantesque surprise de recommencer à parler ce mardi matin. Et la première réaction que Marie a eue, c'est de dire « Oh, c'est ta voix d'avant, c'est ta voix de avant d'avoir cette blessure-là. » Donc c'est la voix avec laquelle t'as commencé l'émission. Pis c'est drôle que c'est à ça qu'elle référait, parce que Marie-Ève, normalement, bon, avec autant de vie commune, il y a d'autres événements dans notre vie, mais elle a vraiment dit, ça, c'est la voix que j'écoutais quand j'écoutais l'Antiquaire, tu sais, que c'est la voix que j'entendais, puis ça m'a énormément touché, puis je suis vraiment dans un... Bon, le dernier trois jours a été comme un espèce de gros trip de conversation, parce que à vouloir parler, tu finis par entretenir les gens puis à dire non, regarde, on a le temps, on va continuer à parler. Fait que j'ai des conversations de plusieurs, ben, pas plusieurs heures, mais au moins toujours une heure minimum. Puis c'est très agréable. Je sais pas, c'est pas comme si ma voix avait été un si grand handicap, mais je me rends compte que peut-être que dans le fond de mon esprit, ça l'était. Puis qui dit bonne conversation, en fait, concours de circonstances, on avait préparé l'émission depuis un petit bout, mais ça me fait vraiment plaisir de revenir avec Nicolas, qui est ici en ondes, Nicolas Krief.
Salut.
Salut. C'est comme pas mal spécial. Je suis vraiment content de faire cette émission-là avec toi.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait aussi, je pense que ça fait un an.
Ouais, mais il y a des gens avec qui ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, que je... Ouais. C'est pas, il y a pas la même mystique. Okay. C'est vraiment en préparant l'émission aujourd'hui, j'ai fait, waouh, je trouve que le concours de circonstances fait en sorte que je suis extrêmement heureux de faire ça aujourd'hui. Puis je suis extrêmement heureux. Mieux.
Moi aussi. Très content de revenir avec toi derrière un micro. Toujours un immense plaisir.
Non, ben c'est un plaisir pour tout le monde. J'ai aussi des très bons commentaires pour les personnes qui écoutent. Puis c'est pas anodin, c'est jamais anodin quand même les sujets que tu proposes, mais aujourd'hui parler du film de 1998 de Stephen Norrington, Blade,
ouais.
C'est, je me disais, ah c'est drôle, il y a toujours des... Il y a soit Wesley Snipes, soit Adam Sandler. Il y a toujours des...
Ben, c'est deux de mes préférés. En tout cas, personnellement, c'est Wesley Snipes, c'est un chouchou, là, définitivement. Je le suis sur Instagram, je réagis à ses posts des fois en espérant qu'un jour il réagisse, il réponde. Je pense pas que ça va arriver, mais je le fais, là. Je l'assume complètement.
Dream it?
Quand, non. Oui, c'est ça, mais quand je programmais des fois, je programme des projections de films, puis je cherche désespérément une copie. Puis 35 mm de Blade ou de Blade 2. Et je lui ai écrit pour savoir s'il y en avait une. Bon, malheureusement, j'ai jamais eu de réponse. Mais bon, oui, je suis très fan de Wesley Snipes. Je le trouve fascinant. Autant dans Demolition Man que dans New Jack City, qui sont des films dont on a jasé ensemble, que dans, particulièrement, en fait, dans les Blade, surtout les deux premiers, donc le premier là, dont on va parler ce soir. Mais ouais, j'étais vraiment content. Puis je suis content parce que Je crois que la règle du 7e Anticaire, c'est encore les films de 20 ans et plus.
Ouais.
Puis là, les films... Tu sais, ça fait plusieurs années là, qu'on se croise une fois de temps en temps pour faire de la radio ensemble. Puis là, les films de ma fin d'enfance, début d'adolescence, ont 20 ans.
Ouais. Ouais, Stars.
Fait que là, il y a eu Showgirls il y a 2-3 ans mm-hmm. qu'on a fait. Il y a eu Demolition Man. Là, il y a Blade... Puis voir The Matrix cette année aussi.
C'est cette année, je pensais que c'était 99.
Ben, on est en 2019.
Ah, t'as raison.
Fait que cette année, mais The Matrix va avoir 20 ans.
Wow!
Fait que, ouais, je suis quand même bien content de ça parce que c'est quand même ces films-là, à cet âge-là, qui te forment une identité cinéphile, créative. Puis ouais. Moi, ben, tu sais. C'est autant dans ma cinéphilie que dans ce que je fais dans mon travail. C'est des grosses pièces là. Puis on a déjà parlé de La vérité si je mens avec dans le temps là.
Ouais, mais je l'ai jamais vu.
Qui est un film. Ben on a parlé d'humour juif au cinéma, puis j'avais parlé beaucoup de La vérité si je mens, qui est un film à peu près de ces années-là, là, qui a 20 ans là, puis qui est très important dans mon.
Si, il est si vieux que ça.
Ouais, c'est 96, je pense.
Ok. Ouais, non, mais c'est pile point ce que tu dis. Je me rappelle quand l'émission est arrivée à Clerks. Quand elle est arrivée comme 94, là, je commençais à comme hyperventiler parce que c'est effectivement ces films-là qui m'ont... Tu sais, Pulp Fiction, quand ça a commencé à rentrer encore plus, j'étais comme, oh, yoï, ouais. Les premières fois que j'étais allé au cinéma, là, pas tant que ça, mais vraiment, là, les films, comme tu dis, qui te forgent, puis là, t'es rendu... OK, là, il commence à être acceptable dans le corpus.
T'sais, les films que... En fait, les premières fois, tu vas au cinéma tout seul.
Ouais, t'as raison.
Ou les premières fois, tu vas au cinéma deux fois pour voir le même film.
Ouais, absolument.
Ça, c'est des gros trucs, là. Plus que la... Tu sais, la première fois que j'étais allé au cinéma, c'est Jurassic Park.
Ah, oh, quand même. Ouais.
Mais la première fois que j'étais allé voir un film deux fois, c'est Matrix, tu sais.
Shit.
Ouais, et puis, le, tu sais, les trucs, c'est comme ça t'habite, là, puis ça...
Non, et puis Matrix, il y a tellement... Actuellement aussi, tu sais, comme de... C'est un film qui se revisite très bien.
Ouais,
parce qu'à la fois, il y a eu énormément...
Ouais.
Il y a eu beaucoup d'influences, il y a eu beaucoup de trucs qui ont découlé de Matrix.
Ouais.
Mais, tu sais, déjà, les créateurs ont tellement changé et sont tellement rendus loin que là, tu
sais pas, hein.
C'est ça, tu peux rétro... Tu sais, faire une espèce d'analyse rétrospective en disant, OK, tu sais, c'était là. Surtout que la transition pour Lana s'est faite pendant le deuxième. Ça fait que t'es juste... Non, non, c'est vraiment... Oh, tu...
Ouais, c'est deep, là, drôle, on est dans le deep.
Blade... Yes, c'est...
Que dire?
Ben, en fait, ma présentation par rapport à Blade, c'est que j'étais prêt à affronter l'espèce d'absurdité de faire Blade à l'Anticaire, où qu'on est dans l'espèce de mandat d'aller chercher, de dépoussiérer des gros classiques, des trucs quand même. Puis, en même temps, je pense pas que ça pourrait mieux tomber vis-à-vis la situation actuelle du cinéma. C'est le fait que... T'sais, Black Panther est le premier film à avoir été nominé meilleur film aux Oscars. Et il y a toujours ce sourire en coin par rapport à Blade en disant « Oui, on l'a fait il y a 20 ans. »
Ben, c'est ça. Et puis,
pas le même
et puis,
calibre de film.
Mais quand même, c'est un film qui a été tellement d'affaires. Je veux dire, je pense que Marvel doit énormément à Blade.
Eh oui.
Puis pas juste Marvel, toute la renaissance des Batman. On dirait qu'il y avait quelque chose d'adulte, de sérieux dans un film de super-héros. Qui a seté le ton pour les 20 années qui ont suivi.
C'est la première production. Il a toujours été executive producer avant de Avi Arad. Oui. Avi Arad a commencé avec Blade. Et c'est aussi, si on reste dans le domaine du film de comic book super-héroïque, ils ont commencé avec un rated R. Ouais. Tu sais, là où on est toujours en train de faire le truc de « Ouais, Deadpool l'a réussi comme il faut », ben non, Blade, c'était un rated R.
Ben, c'est ça.
Puis c'était un black superhero movie, fait que tu fais comme « Ah, ben... »
Ben, c'est ça.
C'est une très belle année, puis c'est un beau moment, là, parce que, bon, les Oscars, c'est dans 3 semaines.
Ouais.
Fait que... Blade!
moi, ma mini-introduction, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler, parce que c'est un film qui est très, 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 très personnel et intime pour moi. Parce que ça faisait partie des films que mon père et moi, on aimait ensemble énormément, qu'on a vu au cinéma ensemble quand j'étais tout jeune.
Ah ouais.
J'avais pas le droit d'entrer dans la salle, c'était 16 ans et plus, j'avais 11 ans et je capotais. Et donc, c'est ça, pour la mini-histoire, Jean-Michel et moi, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, c'était aux funérailles de mon père, mm-hmm. pendant les fêtes. Pendant les funérailles pendant lesquelles on a fait jouer sur les télés du salon funéraire Blade. parce que c'était un film très, très important pour nous, puis que il y avait quelque chose de... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mes soeurs étaient pas toutes d'accord avec le plan. Mmh. Les gens étaient bien surpris en rentrant, parce que c'était la première chose qu'on voyait dans le salon en entrant.
Ouais, c'est comme ça que j'ai su que je savais que j'étais à la bonne place.
Ouais, c'est ce que ben, c'est ça.
Fait. Ah, ouais.
Et c'est... donc, je trouvais ça parfait qu'on en parle aujourd'hui. Ça fait partie... Je vis un million d'affaires depuis les fêtes, puis ben ça... C'est un truc de plus qui me brasse puis qui me fait beaucoup de bien.
Ouais. Mm. Oh, ouais, ça paraissait. Puis en fait, ben c'est... à ce moment-là, il y a comme très peu de choses que tu peux dire. Tu peux offrir tes condoléances, ainsi de suite. Mais c'était... Moi, j'ai trouvé que c'était à la fois très ingénieux parce que ça devenait un objet de conversation. T'étais tout d'un coup en train de faire Blade. Puis là, c'était un des films préférés de mon père. Puis là, je réfléchissais au fait que ton père était comme programmateur d'un des premiers festivals de cinéma fantastique au Québec.
Ouais.
Fait que c'est ça coule de source, tu sais. En même temps, ça devenait une espèce de logique interne. J'étais comme, ben oui, c'est vrai, ça doit être un fan de Blade, puis c'est un fan de genre, puis c'est quelqu'un qui serait prêt à accepter cette non pas une blague, mais cette légèreté-là.
Oui, puis je pense que ça venait faire contrepoids avec les installations funéraires classiques qui peut-être étaient le plus préférées par certaines de mes sœurs. Puis moi, j'avais envie puis qu'on vienne contrecarrer un peu ce... Parce que mon père, c'était quelqu'un qui contournait beaucoup.
OK, OK.
Les règlements, les trucs établis, c'est quelqu'un qui contournait énormément. Et donc, de contourner d'une certaine manière les rites funéraires un peu classiques, disons.
Ben oui.
Avec ça, moi, j'étais comme, bon, on va faire ça de même.
Avec un film de vampire.
Avec un film de vampire. Et pas n'importe quel film de vampire. Écoute, j'ai tellement d'anecdotes de lui avec Blade 2. J'y vais de suite, là, puis on regarde.
Ah, regarde, je t'écoute, ça me complète.
On pouvait pas rentrer à Blade 2, je me suis fait carter. Fait que j'ai, puis 16 ans et plus, il fallait avoir 16 ans. Si tu fais pas 13 ans et plus, tu pouvais être accompagné d'un adulte.
Oui. Mm-hmm.
Mais pour les films 16 ans et plus, il fallait avoir 16 ans. Et je me suis fait carter au cinéma d'Elson pour Blade 2. Fait qu'on était allé voir Resident Evil à la place.
Ouais. Qui est à peu près dans le même niveau de gore, là.
C'était un peu
absurde. Il y a pas une très grande différence entre Blade 2.
Mais écoute, la minute où il est sorti en VHS, on s'est pitché, puis on le regardait ensemble, puis on capotait, puis on ne s'est jamais donné la peine de voir. Non, c'est pas vrai. Mon père a vu le 3. Moi, j'ai jamais vu le 3.
Ouais, c'est ça. Pas dans
mais
grande
lui,
perte.
Il voulait absolument le voir, puis il trouvait ça complètement ridicule, puis on en parlait beaucoup.
Mais en même temps, je comprends, parce que ça boucle un peu le tout si tu considères que c'est le scénariste du 1 qui a réalisé le 3.
Ben, c'est ça.
Fait qu'il y a pas. Mais.
Qui est lui aussi une figure importante, je crois, des films de comic book.
Ben, c'est le scénariste des Batman de Nolan.
C'est ça, entre autres choses.
N'importe quoi.
Il a participé aussi au Superman de Zack Snyder.
Ouais. Non, David Goyer. Partout, David S. Goyer, c'est quand même une des figures très présentes. Tu sais, je pense pas qu'il y a de grands greatest hits autour de ce gars-là. Il a pas vraiment réussi des choses exceptionnel.
Ben, tu sais, de scénariste, oui, parce qu'il a coécrit Batman, il a écrit Blade, il a fait des trucs pas exceptionnels, mais disons carrière quand même.
Y a une, t'sais, c'est le numéro un en termes de scénarisation de films de super-héros.
C'est ça.
Je suis pas en train de dire que c'est le génie de la scénarisation de films de super-héros.
Est-ce qu'il y en a un?
Moi, je dirais Michael Ruslan, le gars qui a scénarisé le premier Batman. Ce gars-là a comme une sensibilité.
Le Batman de Burton?
Ouais.
Okay.
Michael Ruslan qui a retourné dans les comic books aussi. Il a fait un truc qui s'appelle Detective 27 qui c'est un putain de bon écrivain.
Okay.
C'est vraiment juste ça. Puis en même temps aussi, il faut dire beaucoup de trucs à propos de Donner. Là. Donner et son partenaire de scénarisation. Ça aussi, c'était assez top-notch. Mm-hmm. Il y en a eu des grands génies. Mais Goyer, c'est comme le usual suspect.
Ouais,
Puis il est pas... J'ai pas l'impression que c'est pas un créateur qui pervertit. Je crois à son honnêteté.
C'est un fan.
C'est ça. Pis c'est pas un fan qui dégouline puis qui est toujours en train de faire qui va peser sur le produit. Je pense qu'il a une bonne tête ses épaules et il est capable de scénariser à la bonne place au bon moment, tout en respectant. Je pense que c'est un gars qui a la bonne liste dans les mains puis qui fait comme ça doit être là, ça peut partir. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'un scénariste de fandom doit faire.
Ouais.
il a tout le monde, il a ma confiance, mais okay. J'ai jamais comme fait oh shit.
Parce que là, il est rendu dans des séries, il fait des séries, il y a des projets à lui. Je pense que
oh, il va toujours travailler.
Sont, ouais, c'est ça, exact.
C'est ça. À l'instar de Norrington, qui malheureusement lui.
Eh oui, c'est ça. Je regardais sa feuille de route au réalisateur du premier Blade. C'est d'une tristesse monumentale.
Ouais. Oh, ouais, c'est vraiment pas quelqu'un qui a survécu à l'époque. En fait, c'est bizarre parce que je pensais qui avait fait Last Minute avant. Je pensais que Last Minute, ben, c'était sa carte de visite pour Blade.
C'est ça, parce que ça, on dirait que c'est comme un step down. T'as Blade, qui est quand même un film hollywoodien qui a un bon succès à l'international et aux États-Unis.
Ben oui.
Et là, après ça, t'as Last Minute qui est...
Ben, qui est une petite prod crasse, punkish, British, MDMA, tu sais.
En même temps, je l'ai pas vu, mais c'est peut-être super.
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé Last Minute. Je l'aime beaucoup. Mais effectivement, ça a une facture très indie, très... C'est heroin chic, mais tourné un peu à l'épaule. Fait que t'es comme... Ça a de l'air cassé comme film.
Mm-hmm. Peut-être qu'il voulait revenir à quelque chose d'un peu plus personnel après avoir fait un truc comme Blade aussi, ça se peut.
Oui, mais quand tu regardes sa carrière d'avant, c'est pas comme s'il y avait quelque chose de personnel à quoi retourner. Ça. Ouais. Ça a été quelqu'un d'extrêmement reconnu dans l'univers de l'effet spécial. Ouais. Fait que c'est un sculpteur, ce gars-là, à la base.
Mais ce qui l'a tué, de toute façon, ça reste la Ligue des Gentlemen extraordinaires.
Probablement, oui.
Ça se voit, après ça, il n'y a plus rien.
Ouais. Mais c'est pas lui, en fait. C'est ça qui est un peu triste. Par rapport à peut-être par rapport à sa carrière, là, il faudrait le consulter par rapport à ça. C'est que LXG, c'est pas de sa faute le problème. T'sais, c'est pas la réalisation qui est problématique. C'est le fait que faut que tu t'attelles quand tu t'adaptes à Alan Moore.
Ouais.
T'as Sean Connery qui a déconcrissé le plateau à tous les trois jours à peu près. Il rentrait. En fait, c'était supposé être un grand acteur indien qui jouait Nemo. Et Connery, dans ses coups d'égo, mais là, en même temps, j'y vais un peu de souvenir, là, mais comme Connery ne pouvait pas accepter le fait qu'il y ait une plus grande vedette que lui sur le plateau.
Ah ouais. Hein.
Et donc, il a forcé la note pour un recasting de ce rôle-là. C'est un autre acteur qui joue Captain Nemo, un autre acteur indien, mais celui-ci beaucoup moins célèbre. Et c'est aussi, conséquemment, dans les derniers rôles de Sean Connery.
Sean Connery, c'est vrai. Dans ses ça, puis Avengers. Ça se peut-tu?
Avengers.
Chapeau melon et boîte de cuir.
Ouais, je pense que c'était un peu avant.
Ouais, c'est ça, ça se peut. Ouais.
Mais moi, je blâme pas Norrington pour LXG. Okay. C'est vraiment pas de sa faute. Okay. C'était un désastre annoncé.
Ouais, c'est ça. C'était son docteur Moreau à lui un peu.
C'est une très belle comparaison.
Mais reste que sur Blade, j'ai réécouté le film ce matin.
Cool.
Et tabarnouche, il a fait toute qu'une job.
Absolument.
C'est du pré-Matrix, mais comme annonciateur un peu.
Ah oui,
on est dans des gros effets de style, du bullet time, des grosses influences du cinéma asiatique.
Ben oui, le bullet camera, le bullet ballet plutôt, c'est... Ouais, je suis très d'accord.
Il y a une scène, où Blade rentre dans une espèce de party avec plein d'asiatiques. Et
ouais.
T'as vraiment des gros échos au cinéma de Hong Kong, mais big time.
Oh ouais, c'est ça, c'est tout des businessmen
ouais.
En train de regarder
des filles habillées en écolière qui chantent.
Ouais. C'est ça, puis il y a pas de contexte, il y a pas de travail, on les revoit plus jamais.
Ouais.
Effectivement que, non, c'est un film, moi je l'ai réécouté avant-hier soir, avec le commentaire audio, qui est... T'as-tu écouté le commentaire audio?
Non.
C'est un des commentaires les plus techniques que j'ai entendu de ma vie.
C'est Norrington qui le fait?
C'est, en fait, parce que c'est, il n'y a jamais eu de réimpression du DVD de Blade.
Okay.
Ça a toujours été l'édition platine. Il n'y a pas d'autre version que cette version cartonnée qu'on connaît. C'est le début des DVD. C'est le début des commentaires audio.
Mais oui.
Ce qui fait que tu as une voix off qui réintroduit chaque personne qui parle. Ça n'a pas été une conversation.
Nice.
C'est vraiment des bribes d'entrevue. Puis là, t'entends Stephen Norrington. While I was shooting this thing, à chaque fois, Wesley Snipes. Well, what I really wanted was this. T'sais, c'est vraiment ça coupe. J'étais comme, ah, ça, c'est le début du commentaire audio. À la fin du commentaire, vers les 10 dernières minutes, tu te rends compte que ça aurait presque pas été possible de les remettre dans la même pièce.
Ah, c'est ça.
Ils ne se sont pas mal entendus, mais il y a personne qui est content. C'est bizarre. Il y a personne qui est satisfait de qu'est-ce qui a été présenté. Là où je dis que le commentaire audio est vraiment, vraiment technique, le directeur photo n'arrête pas de parler des noirs. Il veut la couleur.
Ouais.
Il veut les noirs parfaits. Il n'arrêtait pas. Il parle de toute la technique derrière, l'idée d'avoir, parce que c'était tourné sur pellicule, un certain niveau de nitrate d'argent qui reste sur les pellicules pour qu'en projection, le noir soit parfait, mais que ça coûtait trop d'argent de laisser autant de silver en sortie publique. Ils ont dit, on peut vous faire à peu près 13 reels. Il y avait 13 salles dont que Blade pouvait être projeté à la hauteur de l'attente du DP. Mais Norrington a fait, ben c'est totalement injuste qu'il y a juste 13 salles qui vont voir le film comme il faut. Fait que ça a été scrappé comme plan. T'sais, c'est toutes sortes de petites affaires extrêmement précises. Wow. Dorf puis Snipes, ça a pas été une super grosse partie de plaisir non plus.
Mais Wesley avait pas l'air de s'entendre avec grand monde. J'écoutais des trucs sur le troisième film. Je sais pas si t'as entendu parler de l'affaire de Patton Oswalt qui jouait dans le troisième Blade et qui explique ce qui s'est passé.
Non.
Et que, ah oui, ça c'est fou. Wesley Snipes, sur le troisième film, s'adressait aux gens avec des notes en papier. Il voulait pas parler au monde. Il fallait qu'on l'appelle Blade sur le set. Ouais, c'est malade, là. c'est malade. Oh, ouais, c'est ça. C'est malade. Je pense que Wesley a un peu viré sur le top. Il était déjà en gros high de carrière, là, en 98. Ouais.
Il est correct. Honnêtement, sur le commentaire du premier, ouais, il a l'air très approchable.
Okay.
Il est pas. Bon, en même temps.
C'est dur à dire.
C'est ouais, ça, tu sais. Mais ses histoires sont très agréables. Il parle d'une terreur. Puis. Si je me mets dans sa peau, je suis comme, ouais, OK, je la comprends, cette erreur-là. Quand il est dans le moule, dans la saignée à la fin, puisqu'il est... en fait, parce qu'à la fin, on le met dans une espèce de sarcophage qui a été moulé dans la forme de Wesley Snipes. Et la scène, c'est vraiment une fermeture soudaine. Mais Blade est attaché des mains et du cou. Donc, il n'y avait aucune manière de vérifier qu'il n'y ait aucune partie de son corps qui dépasse. Puis il y a eu beaucoup de difficultés avec cette scène-là parce qu'il avait peur de voir la pièce de marbre qui s'en vient vers lui à toute vitesse, puis qu'il y a comme son doigt ou je sais pas son bout de gland ou je sais pas trop qui comme se fait claquer là-dedans. Puis il peut pas vérifier parce qu'il peut pas baisser la tête. Fait qu'il te fait un super beau récit.
Wow,
OK, je sympathise avec
ben
toi
oui,
aussi.
Ben oui. Tabarnouche.
Mais non, c'est un commentaire audio très spécifique. Les effets de en fait. Je suis un peu content d'avoir écouté parce que j'aurais jamais remarqué que c'est un film qui est très claustrophobe. Il y a beaucoup de plafonds. Tout est très
bas. C'est vrai, ça.
Tout est en corridor. Puis le directeur photo est continuellement en train de chialer sur le fait que il y a des. Tu sais, comme la scène de motocyclette qui passe à travers la plaie de glace était pas faisable techniquement à cause des dimensions des pièces. Il disait, ben, je peux pas mettre. Tu sais, si tu veux 5 caméras ici, ça veut dire que j'ai 30 personnes sur le set, puis là tu veux que Wesley Snipes passe à travers avec une moto, ça arrivera pas là. Ils réussissent par une espèce de, quand ils l'expliquent, tu le vois le jeu de montage, t'es comme ah ok, mais tout est très restreint. La scène de rave est très basse. Le seul moment où est-ce qu'il y a véritablement quelque chose qui est de la verticalité, c'est le chamber de la fin. Mais que en même temps, ça a beau être ça a beau être haut, c'est restreint en bas. C'est tout comment les déplacements de Wesley Snipes, le fait qu'il est continuellement en train de se coller sur des murs. Il faut tout le temps qu'il saute, puis que bon, Wesley Snipes admet qu'il avait pas la coordination pour être capable de faire ça.
Ah ouais.
Fait que, tu sais, l'idée de sauter, faire deux pas, deux bonds, sauter puis se coller.
Ah oui, au début, dans la fameuse scène, dans l'espèce de douche.
Incapable de faire ça.
Aïe, aïe.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un.
Ouais,
c'est moins un truc de mood, c'est moins un truc de qu'est-ce que je voulais faire ou notre objectif ou cette journée-là, j'ai perdu mon soulier.
C'est ça.
C'est plus un comme. Non, il fallait qu'on peinture tout en noir parce que la lumière de la piscine devait faire l'effet dans la maison de Deacon Frost.
Dans son
appartement, puis il t'explique de long en large comment ça a été compliqué à éclairer cette affaire-là.
Mais c'est vraiment. C'est intéressant parce que c'est vraiment un film esthétique. Singulier, je veux dire, Moi, j'ai le feeling, bon, je veux pas me lancer dans ces conversations-là, parce que j'ai pas de toute façon les chops pour ça, mais j'ai quand même le feeling que la majorité du cinéma super-héroïque des dernières années, tout se ressemble, ou à peu près.
Il y a une facture.
Une facture, tu sais, comme d'un bord et de l'autre, des grands studios super-héroïques, disons. Mais là, c'était dans le temps où le monde faisait un peu ce qu'il voulait.
Ah oui, puis ça commençait.
C'est ça.
Je pense que c'est pour ça qu'ils parlent autant de la technique. Parce qu'actuellement, ces plans-là sont faciles ou sont communs.
Ouais.
Fait que là, l'équipe rentre. OK, ben on essaie de faire... on a besoin d'un board de rebondissement pour une piscine intérieure. Bon, tout cas, moi, ouais, qu'on l'a déjà fait. Mais eux autres, à l'époque, surtout comme tu disais, c'est une esthétique qui est en train de se faire. C'est pré-Matrix et tout. Ouais. Fait qu'ils se débrouillaient, là. Ils se débrouillaient énormément. Mais c'est quand même un... C'est ça, ça va toujours être un film mal aimé. Parce qu'il est comme quatre mois avant que tout pète.
C'est ça, hein? Mais il y a quelque chose de fascinant dans le sujet. Tu sais, l'idée de Blade à la base est intéressante, là. Pour moi, c'était le Voldemort des vampires.
Oh,
je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une communauté en marge de la société... qui est présentée comme extrêmement bourgeoise.
Oui, ben oui.
Et qui veut établir son espèce de supériorité. Puis là, en plus, à l'intérieur de cette communauté-là, t'as un jeune qui est Deacon Frost, qui est un genre de
demi-moldu,
un peu, là, dans un certain sens, parce que lui, il a été mordu, il n'est pas né vampire. Et il essaie de casser l'espèce de dynastie des vampires purs à l'intérieur de ça. Et puis là, t'as Blade, qui est l'espèce... Il l'appelle Daywalker. Il a un surnom. Il fait peur à tout le monde. C'est lui la menace. Et puis, il vient juste cracher dans leur soupe avec... dès la scène d'ouverture. Dès la scène d'ouverture, il y a la fameuse scène du rave qui est extraordinaire. Encore aujourd'hui, cette scène-là est fabuleuse. À mon sens, aussi formidable que bien des scènes de The Matrix qui ont passé à l'histoire.
Pour ça, écoute le commentaire audio là-dessus.
Ah ouais, hein? Les gens parlent encore de cette scène-là et de la musique, évidemment.
Il y a eu aussi il y avait une grosse révolution autour de The Crow, puis Spawn, puis Blade avec les trames sonores.
Ben oui.
Qui étaient des trames sonores griffées, que là, tout d'un coup, c'était juste. C'était un autre statut pour la trame sonore. Ça, je m'en rappelle beaucoup d'avoir vu ce disque-là circuler.
Fait que, ouais, j'ai vu une espèce de.
C'est intéressant. Ben, c'est I Am Legend aussi, un peu. Cette idée-là que celui qu'on reconnaît maintenant, c'est Will Smith, là, mais comme à l'époque.
Vincent Price, ou Charlton Heston.
Exactement, merci. J'avais pas pris le point de vue de la communauté, mais oui. Qu'est-ce que t'as? T'sais? Non, mais fatigant, toi, de me déranger. On a un
ben,
système.
C'est ça, eux, ils ont un système, ils se construisent, puis ils essaient de take over la planète.
Je pense que le conseil. Parce que c'est moi, il y a un truc par rapport à Vampire the Masquerade que je trouve qui est vraiment cocasse dans le film. C'est que cet ordre-là, c'est un peu les 12 tribus, si je me rappelle bien, de Vampire the Masquerade. Puis Vampire the Masquerade, c'est la version la plus autoritaire qu'on pourrait dire de la représentation des vampires. Les 12 tribus, c'est que il y a les Ventru qui sont les aristocrates, t'as les Timisi qui sont les créatures du désert, t'as les Bruja qui sont les grosses bêtes avec les gros crocs, puis ainsi de suite, sont beaucoup plus férales. Puis dans Vampire the Masquerade, il y avait ces 12 tribus-là, les 12 familles, qui représentent à peu près tout ce qu'on s'imagine dans le portrait des vampires. T'sais. Mais dans Vampire the Masquerade, essentiellement, The Masquerade, c'est de ne pas se faire remarquer. Il faut que tu conserves la mascarade parce que tu veux pas attirer l'attention. Pis c'est un peu quand tu regardes autour de la table, tu es comme, OK, non, ça là, c'est un Tremere, ça là, c'est un... Pis tes voix, ils sont... Toutes la gang de Vampire the Masquerade sont approximativement là. Et dans le milieu, tu as Deacon Frost qui, en étant ambitieux, les expose.
C'est un hipster un peu normcore, Deacon Frost, quand on y pense. Là.
Pour l'époque, oui.
Ouais, qui veut être le nouveau qui vient brasser à marde.
C'est ça, mais il me semble que tout aurait été correct si t'avais pas... t'étais pas rendu explicite. Il brise la mascarade.
C'est ça. Puis il a ouvert la voie à... Bon, évidemment, Blade a ouvert la voie à tous les films dont on a parlé, mais aussi des films de vampires qui ont suivi, parce qu'il y a une maudite grosse vague après ça. T'as lu dans la même vague que Blade Underworld, la trilogie, je pense.
Absolument. Ah oui. Ah oui, non, non, il y en a, là, je me rends, moi, je irais jusqu'à, c'est drôle, parce que tu dis des walkers, là, mais le... Ça s'appelle-tu Daywalker avec Ethan Hawke?
Ouais, je vois de quoi tu parles. Je l'ai pas vu, mais je vois de quoi tu parles. Ouais, il y avait 30 Days of Night, quelque chose comme ça
ouais,
aussi.
Ouais, c'est vrai. Qui ressemblait un peu plus à The Thing de Carpenter, mais c'était.
Ouais, ouais, mais avec c'était des vampires, je pense.
Oui,
ouais.
Absolument. Mais non, non, tout ce qui est techno-vampire, tu sais, ouais. ça fait un 10 ans là, où ouais. on en avait.
Jusqu'à Twilight, 2008, 10 ans après Blade.
Aïe, aïe!
La game des vampires a changé en maudit à Twilight, je te le garantis. Pour les avoir tous vus, la game a vraiment changé. Ouais. Ben, j'étais fasciné par le premier. J'étais fasciné par le premier Twilight. Qui était
la fascination. Bravo.
Regarde, tu vois. Ouais. Tu vois. qui était un film de... Qui était un Gus Van Sant avec des vampires un peu. Là. C'est ça qui est fucked up du premier Twilight. Là. C'était Catherine Hardwicke qui a réalisé.
Ouais.
Puis c'était... C'est dans une ville bien humide où il fait tout le temps gris, des adolescents découvrent leur sexualité, sauf que là, ben, c'est présenté sous une forme un peu allégorique de vampire. C'est ça. Là.
Tu dis des choses c'est tellement étranges.
C'est ça, mais ouais. C'est vraiment ça. T'sais. C'est juste que ce qui est. Puis c'est très mormon. Mais Gus Van Sant n'est pas très mormon, mais Twilight, c'est très, très mormon. Et ce qui est fascinant des vampires de Twilight, c'est qu'ils ne vont pas au soleil parce que s'ils vont au soleil, ils brillent.
Ouais,
et
ouais.
Ça, c'est weird.
Mm-hmm. Ça, mais ça, c'est l'univers de la fanfiction. Il ouais, y a ça, des trucs vraiment étranges qui réussissent à en sortir.
Parce que ce que je trouvais intéressant, en fait, pourquoi je fais cet étrange parallèle, c'est que en le revoyant aujourd'hui, je voyais les vampires au soleil avec de la crème solaire. Puis là, j'étais comme shit, il a fait ça là, avec le gros code du vampire. Là. Il les met au soleil avec la crème solaire. C'est stretché en esti, là. Oui. Quand t'écris des films, puis tu fais ça, faut avoir des esti de grosses gosses. Parce que tabarnak, qui va acheter ça? Et pourtant, ils le font, tu sais. Mais je pense que les traditions du cinéma asiatique permettent d'acheter ben du stock.
Ben, tu sais, à peu près dans la même veine de grossière absurdité, il y a les fioles qui font exploser. T'sais, les fioles qui corrompt le sang vampire puis qui rendent des bulles puis qui pètent en sang, mais il y a pète en sang puis il y a pète en sang. Là, hey, c'est les chaudières que t'es comme... Ah oui, non, faut que... Mais il y a toujours... Je le trouve très intéressant dans sa sensibilité, le film, parce que il va t'amener jusqu'à là puis il va te ramener.
Ouais.
Il va pas... Je pense pas qu'il y a grand monde qui sort de Blade avec l'impression qu'ils ont vu un film qui est full-on débile, t'sais, qui est bonkers. Ouais. Non, le film reste très cohérent, mais une fois de temps en temps, t'as une masse humaine qui brûle avec...
Un genre de Jabba the Hutt. Oui. Ça, c'est weird, man. Il y a plein de clins d'œil que je sais pas si je suis fou d'avoir vu ça, mais il y a des... On filme parfois Blade comme Terminator. Il arrive ben drette avec son shotgun, passe à travers une vitre cassée, puis là, t'es comme « Oh, OK, je suis là, là. » C'est un film qui est comme truffé de toutes sortes d'inspirations qui vont un peu à droite, à gauche, puis qui, définitivement, emprunte au cyberpunk.
Ben oui, clairement. Oui, c'est ça. Ça devient une des grandes influences marquantes qui n'était pas, encore à cette époque-là, qui n'était pas super nommée.
Ouais.
Puis je pense que Goyer, il était dans son trip cyberpunk à cette époque-là parce qu'il venait juste où il allait. Sortir Dark City.
Il a-tu travaillé sur Dark City?
C'est la liste de Dark City.
Ah ouais, mm-hmm.
C'est ça. Fait que, il était solide là-dedans.
Ouais.
Mais effectivement, l'idée de à la fois avoir des runes du Yi Ching mélangées avec des néons de rave mélangées, ça devient très. Même limite Blade Runner aussi.
Ouais, c'est ça.
Que, comme il y a deux cultures qui existent, il y a la culture orientale et la culture occidentale dans ce film-là.
Mais c'est un film très cosmopolite. Même le casting des figurants, tout le monde a des tranches différentes. Je pense que l'idée de la minorité était importante au cœur de ce film-là.
Ouais.
C'est mon feeling. Puis que la culture dominante dans le film, c'est les vampires.
OK. Ah oh, ouais.
Pour moi, il y avait un peu de ça. Peut-être pas au point. T'sais, ça emprunte pas les thématiques que Black Panther emprunte.
Non, non.
Entre, tu sais, comme son méchant puis son gentil, qui est quand même assez fucked up. Mais dans Blade, c'était... deux gars tout seuls, dont un Afro-Américain qui s'en va tuer des vampires vraiment bourgeois blancs.
Ouais.
Pour la plupart, mais il y a des vampires noirs. Je veux dire, c'est très, comme je disais, c'est très cosmopolite. Puis je pense pas que le discours est là, mais moi, j'y ai vu quand même une part de ça.
C'est très lisible. Je suis totalement d'accord. Puis c'est peut-être plus fort de pas avoir cogné sur le clou.
Ben, je pense que oui.
T'sais, c'est ça aussi, là. Je veux dire, dans le commentaire audio, il explique la nature de la technicienne en sang. T'sais. Il est comme, ben, on a pris une actrice noire parce que ça enlève toutes les ambiguïtés dans le rapport. On aurait pu totalement caster une autre, d'une autre origine ethnique, mais en prenant une actrice noire, ben ça, t'avais pas de besoin de rien dire. T'sais, c'était juste une compréhension. Puis
il voyait sa mère en elle. Je veux dire, il y a un plan où ça c'est bizarre aussi. Il y a un souvenir de son propre accouchement.
Ouais, ça c'est.
Mais en même temps, c'est Blade, il peut faire ça. T'sais.
Wesley Snipes, c'est comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup du. Ok, là je vois peut-être. Vas-y.
Go.
Trop d'en rajouter.
Go.
Mais dans le commentaire, tu sens beaucoup de l'influence du statut de producteur de Wesley Snipes, parce que Wesley Snipes dirigeait beaucoup qu'est-ce qui se passait. Et il y a un moment où il fait une lecture extrêmement bouleversante de son personnage, où il dit essentiellement, je me rappelle, David Fincher était beaucoup sur le plateau de tournage.
Ah oui?
Ouais, Fincher était très présent. Ça a failli être lui qui l'a réalisé à un certain point.
Oh mon Dieu.
Puis je pense que dans une conversation avec Fincher, il y a eu l'éclair où il a fait « Ok, essentiellement, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que je commence le film en ayant à tuer mon... » Il dit « C'est un renversement. C'est pas tuer ta mère, tuer ton père et quand tu rencontres le Bouddha, tue-le. » C'est vraiment qu'il tue... En fait, les personnes qui tuent, c'est toujours son père ou sa mère. Puis c'est Wesley Snipes qui dit ça. Il est toujours en train de soit tuer sa mère, toujours en train de tuer Deacon Frost, parce que Deacon Frost, c'est techniquement son père.
Mm-hmm.
Il est toujours en train de... Ben, en fait, c'est pas lui qui a tué Wesley. Whistler. Wesley, c'est dans
Buffy. Oui, c'est ça. J'avais hâte qu'on arrive sur Chris.
Chris Christopherson, ouais, c'est un père symbolique.
Ben oui.
Puis Wesley Snipes a une espèce de conception très tragédie grecque du personnage de Blaine qui est continuellement en train de tuer ses parents. Ouais. Puis il porte à croire qu'il aime tellement cette idée-là bouddhiste de quand tu vois le Bouddha, tu l'as, puis il faut qu'il y ait personne. Tu dois continuellement te débarrasser de tes maîtres, tu dois continuellement te débarrasser de tes origines pour continuer à exister. Qu'il l'a forcé dans le scénario à plusieurs reprises. C'est
wow!
Ouais. J'avais pas trop considéré ça dans le film. Moi, je le vois pas comme ça, mais lui, il en parle comme...
Ouvertement.
Ouais, sa ligne directrice.
Aïe.
Que c'est son teaching, là. C'est comme, OK. Ouais. Parce que c'est vrai, je trouve ça... Ça vient un peu... hors champ que Deacon Frost soit son père.
Ben, logiquement. Ça me rappelle, le stretch est peut-être gros, là, mais que le Joker, c'est le gars qui a tué les parents de Batman dans
Napier,
le Batman
ouais.
de Birdman, de Jack Napier, c'est ça. On dirait qu'il y a une espèce de lien à faire entre les deux, un peu scénaristique.
T'sais, je t'ai créé.
C'est ce qu'on trouvait un peu, juste un petit peu trop twist, pas twisté, mais forcé dans le Batman de Burton.
Ouais,
mais là, il y serait, mais de façon un peu plus symbolique, disons.
Ben, c'est que ça. Je trouve que oui, c'est effectivement
mais
symbolique.
Pas, excuse-moi, non, c'est pas vrai, c'est parce que ça n'a pas vraiment de lien parce que Jack Napier n'est pas le père de Batman, mais.
Mais c'est la vengeance sur ses propres origines.
Ouais, c'est ça.
Tu viens me détruire malgré que tu n'existerais pas si c'était pas de moi.
C'est ça.
Fait que, non, je le vois très bien ce que tu essaies de dire, mais tu vois, je pense que le personnage de Blade n'étant ni vampire ni humain, mais un peu des deux, est continuellement en train de tuer les personnes de chacun des camps pour ça. T'sais, il est toujours en train de mettre en péril, parce que la femme humaine, il la met en péril beaucoup.
Ouais.
Fait que la mère symbolique est continuellement en train de la mettre en péril. Whistler, il est toujours en train de la mettre en péril. Sa mère vampire, il la tue. Son père vampire, il le tue. C'est juste, ah, OK, non, il y a de quoi faire comme fucky et chill, tu sais. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ben weird, vous autres, au 20e siècle. Mais ouais, Whistler, c'est...
Ben, quel personnage incroyable. Déjà, ton meilleur chum qui fait tes guns, c'est un grand chanteur. country-ish avec une... Tu sais, comment ils sont allés chercher Kris Kristofferson pour faire ça? T'sais, déjà là, c'est comme quand Nolan est arrivé avec un Alfred que, tu sais, on pensait tous au Alfred de Burton puis de George Schumacher qui était...
Ben, c'était Alfred.
Michael quelque chose, son nom, puis c'est ça, c'est Alfred du Dacit. Et là, Nolan débarque avec Michael Caine, t'es comme, what the fuck, ok... Toi, tu joues dans des grosses ligues, là.
Ouais.
Puis, c'est pour ça que voir Kris Kristofferson, prendre au sérieux ça, ce cinéma-là.
Ouais.
Tu sais, c'est un peu ça, dans le fond. Il n'y a pas juste le chèque. Tu sais, je veux dire, si tu acceptes de jouer là-dedans, c'est qu'à un certain point, ça t'intéresse parce qu'il l'incarne en esti, ce rôle-là. C'est ben, ça qui est passionnant, je trouve. Ouais. C'est qu'ils ont étrangement une chimie, les deux comédiens.
Moi,
je sais pas si j'exagère, mais disons que.
Ben, Kris Kristofferson pourrait avoir de la chimie avec un Wesley Snipes en carton. Ben, c'est
y a
ça,
pas de ça,
faire,
c'est ouais. ça.
Mais Snipes a pas à jouer vers Whistler autant. C'est, fait que la chimie est correcte parce que, encore, tu sais, il a pas à interagir.
C'est pas ça que tu le vois. Il est habillé en espèce de. Tu sais, il est un peu tout croche. Il a ses cheveux longs, sa jambe avec une attelle constante dessus. Tu sais, t'es comme, waouh, ok. J'ai jamais lu les BD, mais tabarnouche, ce personnage-là, il est magnifique d'emblée.
Oui, oh, ouais, c'est très vrai. Puis après ça, il devient. C'est ça, ça devient Norman Reedus, je pense, qui le reprend.
Dans le deuxième, c'est encore Kris Kristofferson.
Ah oui, ok. Pourquoi est-ce que je pense à Norman Reedus, là? Ok, bon, whatever. Dans le commentaire, il en parle un peu à la manière d'une grande admiration pour Peckinpah, mais s'il dit pas, je le vois pas dans le film.
Non, c'est ça.
Je vois, ils sont comme, je voulais faire Once Upon a Time in the West. Ok. Tu peux le dire.
Ouais.
Je sais pas où est-ce que tu as mis ça. Ah, il y avait ce triangle. Ouais, ok. Non, non, j'ai pas tant l'impression. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis par rapport à. J'ai-tu vu une référence là? Tu sais que.
Ouais.
Il est toujours fuyant. T'es comme. Il est-tu en train de citer Terminator ou pas? C'est juste moi qui feel ça, là?
Ben, c'est parce que ce qui est le fun de ça, en fait, c'est qu'il dépasse l'idée du film de geek.
Ah, absolument.
Où il te plug des références pour que tu puisses reconnaître les références, pour que tu dises, ah, moi, puis le réel, esti, on est chum, parce qu'on connaît les mêmes affaires.
Ouais.
Et comme il s'en connaît, il les utilise à la limite pour magnifier son film, puis pour magnifier ses personnages, puis that's it. Wesley Snipes qui enjambe avec son shotgun dans les mains, habillé tout en cuir, qui, moi, me rappelle Terminator, peut-être que personne pense à ça, puis on s'en calisse, mais Wesley Snipes dans ce plan-là est juste magnifique, tu sais, au même titre qu'Arnold l'était dans Terminator 2. Donc. Je sais pas si c'est des... Après, rendu là, je sais pas si c'est des références, en fait.
Ben, ou tellement, tu sais, c'est que... peut-être à l'avoir rendu trop explicite, cette référence-là, ça serait devenu une référence. Ça serait pas devenu Wesley Snipes est magnifique à ce moment-là.
Ben, t'sais. C'est ça.
Fait que non, il y a peut-être quelque chose de plus habile, là, qu'on... Faut pas qu'on lise. Faut pas qu'on le voit. Faut qu'on le sente.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est un drôle, c'est vraiment un... Drôle de France à dire à propos de Blade.
Mais c'est parce que c'est, encore une fois, je pense qu'on a dit ça à chaque fois qu'on a joué du cinéma ensemble, mais ces films-là, ils sont précieux. Là. Il faut les aimer. Il faut les aimer au même titre qu'on aime tellement d'autres films.
Non,
c'est,
oui.
C'est sûr que qu'un film qui a cette... pour moi, qui a cette importance-là personnelle à ce point-là, c'est sûr que je le réécoute puis je fais « Oh shit, OK, il y en a du stock à jaser. Il y en a du stock. » Puis c'est drôle parce que je reviens aux anecdotes de familiales, mais un gros gag avec mes amis, c'est que j'ai deux de mes amis qui viennent manger chez mes parents à un moment donné. Puis ma mère se met à raconter Twilight. Puis ma mère a ce défaut ou cette douce qualité de raconter toute l'histoire d'un livre ou d'un film ou d'un podcast qu'elle vient de voir, d'écouter, peu importe. Là, maintenant, je ris d'elle, puis je lui dis, t'as le droit à 5 mots, tu sais. Apprends l'art du pitch, là. Parce que
5 mots.
Elle résume vraiment pas, mettons. Puis ça, c'est très drôle. Fait que là, on est à table avec mes amis et mes parents. Et c'était il y a quelques années. Et ma mère décide de raconter à mes amis Twilight, les livres qu'elle a lus.
Ouais.
Mais elle les raconte au complet.
Oh oui, match de baseball inclus. Là.
Match de baseball inclus. Et là, à la fin de l'histoire, mon ami, il veut pas réagir. Il veut pas dire genre...
T'es un invité.
C'est ça, t'arrêtes de me raconter ça. Mais il se retourne vers mon père. Puis mon père, tout ce qu'il dit, c'est « Tu sais ce que j'aime, moi? Blade. » Et that's it. Et là, on a ri, là. Mais on a ri, là.
C'est la meilleure. En fait, elle a beaucoup de niveaux, cette réplique-là. Parce que non seulement il est en train de citer un film qui est comme inattendu.
C'est ça.
Mais il est en train aussi de citer un film où ce qui tue une gang de vampires.
Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis je pense pas qu'il l'ait fait consciemment, mais c'est best, là. C'est comme. Aïe, aïe, ça, c'était. Ouais. Ça, c'était le très style de mon père. Fait que, c'est ça, c'est. J'aime beaucoup revenir à ces films-là, évidemment. Je pense que, comme n'importe qui, dans la vie, dans le travail, peu importe, quand on s'intéresse au cinéma, on revient beaucoup à cette période-là de notre vie où est-ce qu'on a 13 ans, 12 ans, 11 ans, puis on voit des films, puis on est comme, what the fuck, tu sais. Puis ça, c'était un des premiers.
Mais lui, il l'a pas vu à 12 ans.
Non. Il l'a pas vu à 12 ans, mais il s'est resté. Je sais pas, je pense qu'il y a eu plusieurs périodes de sa vie, puis qu'il a toujours été cinéphile, mais qu'à un moment donné, ce cinéma-là, c'était la seule chose qui. Puis c'est resté de jusqu'à sa mort, jusqu'à genre le mois de décembre dernier, où tout ce qui l'intéressait, c'était voir des films d'action.
OK.
Ben de la bataille. Puis je me souviens qu'on a vu Blade, on en a reparlé tellement souvent, qu'il avait tellement aimé ça. Je pense pas que c'est là qu'il a commencé à s'intéresser aux films d'action, mettons, mais.
Ah oh ouais, ça a été dans
lui. Il m'a montré Demolition Man, il m'a montré Face Off. Tu sais, Face Off, je sais pas si t'as déjà fait une émission sur Face Off. On a fait une émission sur John Woo l'année dernière, remarque.
Ouais, ouais, la personne la plus près avec qui j'aurais pu faire ça, c'était avec toi. C'est Face Off. Mais aussi,
tu sais, c'était tous des films qui sont restés en moi, tu sais, toute même jusqu'à aujourd'hui, tu sais.
Ouais.
Fait que. Ouais, c'est ça. Après ça, quel genre de cinéphilie il avait dans les années 80, dans les années 70, dans les années 60, j'en ai aucune idée. Je sais que c'était comme ben des petits gars en France, ils allaient voir des films. Je sais. Il m'a déjà raconté qu'il était allé à Bruxelles pour voir Mad Max parce qu'il jouait pas à Paris, parce qu'il était pas censuré, mais
À l'annexe.
Ouais, à l'annexe, ou même. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est arrivé pour quelques films. Il avait été à LA pour voir Raiders of the Lost Ark parce qu'il était comme, il capotait. Puis il y avait eu genre un des premiers VHS. Il était trippeux, là. C'était un trippeux.
Mais c'est ça qui me fascine, c'est que, comme tu as dit, il écoutait du cinéma depuis les années 60, 70, 80, puis il arrive en 98, puis c'est Blade. C'est immensément beau parce que c'est totalement incompréhensible. Tu tiques sur cela. Hein? Wow!
Après ça, peut-être qu'il disait ça à moi, puis à quelqu'un d'autre, il disait quelque chose d'autre, mais je pense que c'était aussi dans le partage.
Ah, OK. C'était quelque chose de commun.
L'amour qu'on avait pour ce film-là, lui puis moi, c'était l'amour qu'on avait de s'asseoir ensemble puis de regarder des films. Puis le dernier film qu'on a vu ensemble au cinéma, ça fait longtemps, ça fait genre 5 ans, 6 ans, c'était Skyfall.
Ah!
Puis qu'on avait adoré, tu sais, qu'on a trippé.
J'ai pas vu.
Qu'on a vraiment trippé, mais puis, tu sais, c'était. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai vu un film avec lui.
C'était Skyfall, wow.
Puis c'est des gros morceaux là, dans ma vie, voir des films avec mon père. C'était genre. C'est ça qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça,
100%. Là, ouais. Fait que Blade, ça fait partie de tout ce loop-là qui est d'aimer ensemble, tu sais. Moi, j'ai jamais été au hockey avec mon père. Mm-hmm. Parce qu'il s'en collissait, puis peu importe. Oui, non, c'est pas vrai, j'étais allé une fois, puis c'était l'enfer. Il y avait eu des billets à cause du travail, puis il m'avait amené, puis c'était au forum.
Ouais, puis, c'est...
Et lui et moi, on était comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis j'étais jeune.
Les deux vous regardiez en reconnaissance de...
Ouais. Moi, j'étais petit, j'avais les oreilles bouchées, mais je trouvais que c'était trop fort.
Ouais.
Puis lui, était comme... Puis il s'intéressait même pas. En tout cas, c'était bizarre. Fait que, bref... Ce qu'on faisait, c'était qu'on allait au cinéma.
Puis là, vous s'assoyez, puis vous êtes...
T'es énervé, là. Je me souviens quand on avait... À quelques jours de la sortie de l'affaire Thomas Crown, version Pierce Brosnan,
ouais.
Je le gossais, genre, « Hey, t'as-tu hâte? On va voir ça vendredi, t'as-tu hâte? » Puis il me disait, « OK, ça va, là, j'ai compris. Oui, oui, on y va. » Tu sais, c'était ça, là.
Ah.
C'était ça, là, notre dynamique d'aller voir des films.
Puis lui, gossais-tu vice-versa par rapport à d'autres trucs?
Ben, il me gossait comme un père gossait.
Ouais, c'est ça,
mais,
c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais non, ça, c'était particulier. Ça, c'était notre truc, là. Fait que, ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça. C'est... Ça se comprend, tu sais, que ça jouait. Pour moi, ça n'a pas été très long pour moi de catcher pourquoi c'était en train de jouer.
Oh, maintenant au funérail, tu veux dire, ouais.
Maintenant, je le réécoute. Maintenant, de l'avoir réécouté, je suis comme, ah, c'est un. Tu sais, c'est ça, j'étais pas là au moment où ils ont brûlé le gros monsieur, mais ça a dû être spécial.
Ouais,
monsieur, madame, on sait pas exactement.
Écoute, je sais pas trop comment les invités que je connaissais pas ont réagi. Tu sais, mes amis ont fait, ah, ça, c'est drôle.
Yep.
Mes sœurs, en fait, ben pas toutes mes sœurs, mais de mes sœurs qui ont fait, c'est spécial.
C'est ce qu'il aurait aimé.
Ma mère a ri. C'était bizarre, c'était très bizarre. Mais c'est ça, j'aurais aimé ça, juste avoir une partie de moi qui peut checker la réaction de tout le monde dans le salon funéraire qui voit sa grosse TV Blade qui joue. Avec la musique latine qui jouait en background,
ouais,
parce que
la grosse musique cubaine.
La musique cubaine, c'est ça. Donc,
ouais, percussionniste de jazz cubain, c'est
ouais,
ça?
Exact.
Bon, c'est...
Exact. Ouais, ouais, c'était quelqu'un de... Il se passait plein d'affaires dans sa tête.
Non, puis... Je sais pas, c'est peut-être moi qui en lis trop. Tu sais, je savais qu'est-ce qu'on était pour faire comme émission.
Mm-hmm.
Mais il y a quelque chose dans le... Tu sais, c'est aussi suite à entendre Wesley Snipes parler autant intimement de son interprétation du personnage, qui est en même temps très surprenante parce que, tu sais, on a beaucoup parlé de Robert Downey Jr. comme casting idéal. Mais tu sais, dans l'histoire du comic book au cinéma, il y a Wesley Snipes en Blade, tu ne pourras jamais battre ce casting-là.
Ah ouais, hein? Plus que Robert Downey Jr. en Iron Man.
Absolument. Oh oui, c'est lui. C'est fou comment que c'est lui. Puis c'est. Même, je te dirais, après, c'est pas vraiment Robert Downey Jr. qui est en seconde place là, dans les castings.
Ce serait qui?
C'est Patrick Stewart en Professor Xavier.
Ah ben oui.
C'est juste comme. C'est...
Il y aurait Samuel Jackson, mais on dirait qu'ils ont réécrit des Avengers juste pour que ce soit lui qui soit dedans dans les films, on dirait. Là. On dirait qu'il y avait un plan préétabli. Parce que je sais qu'il y a eu une série de BD d'Avengers où Nick Fury était carrément un dessin de Samuel Jackson.
Ouais, mais c'était plus d'essayer d'en faire... C'était une version modernisée des Avengers. Fait qu'il allait chercher des trucs... spécifique où Banner avait l'air de Steve Buscemi.
Ah,
ou Tim Roth. Je me rappelle plus exactement, c'est un de ces deux-là, là, mais tu le vois, Thor, c'est Brad Pitt. C'est très, très clair.
Ah, ouais.
Fait que pour Sam, ça fonctionne pas, ça tient pas nécessairement la route, mais Wesley Snipes, c'est ça, je suis allé regarder les vieux trucs de Gene Colan, j'ai fait, ouais, limite, si c'est Robert Downey... Ben là, je vais peut-être dire une cochonceté, je sais pas trop exactement comment les gens vont réagir à ça, mais tu sais, si c'était pas Robert Downey Jr. qui jouait Tony Stark, les gens auraient fait « All right, c'est un rendez-vous manqué, limite.
Okay. »
Mais Blade puis Wesley Snipes, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Mm-hmm.
Fait que quand tu me dis que sur le plateau du troisième, il voulait être appelé Blade, c'est... Ouais, ça fonctionne. Je sais pas à quel point est-ce que Wesley Snipes est tiraillé dans ses origines, comme...
Je pense qu'il était un peu juste aussi... Il se prenait pas à ce moment-là pour un petit 7-Up flat.
Mais c'est lui.
C'est ça. Il se la jouait Daniel Day-Lewis, là, mais comme version avec un sabre.
Pas n'importe quel sabre.
Pas n'importe quel sabre en plus. Non, je suis bien d'accord que Wesley Snipes, c'est Blade. Ils avaient le choix entre trois acteurs. J'ai lu ça. Denzel Washington. Je sais plus qui d'autre.
Michael J. White.
Non. Michael J. White. Ah, mais remarque, Spawn est sorti à peu près à la même époque.
C'est ça, 97, je pense.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, nouveau Spawn, en préparation, réalisé par Todd McFarlane.
Ça me
surprend. Non, mais ce qui est intéressant, je fais vraiment du...
Bon,
c'est parce que c'est Blumhouse qui produit.
Oh, OK, ouais.
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 Fait que ça, c'est nice.
Parce que, ouais, c'est ça, t'as quelqu'un qui va être capable de dire non, ça c'est fou. Ça,
qui va te backer solide sa créativité aussi, c'est nice. Tu sais, je veux dire, pas comme artiste, tu veux travailler avec une boîte comme Blumhouse, là, c'est comme capoté.
Actuellement, oui.
Actuellement, ouais. C'est capoté.
Ouais, je suis d'accord. Je suis très, très, très d'accord. T'avais-tu autre chose à rajouter?
Non, j'espère qu'il va y avoir un reboot, sinon je vais le faire.
Tu vas faire un reboot de Blade.
S'il n'y a pas de reboot qui se fait un jour, j'aimerais ça l'écrire. S'il y a quelqu'un qui écoute, là, puis qui est contact avec. Je m'offre pour écrire un reboot de Blade.
Ça devrait arriver, en fait, dans les temps, là, comment les cycles reviennent.
Ouais, c'est ça. Ça doit déjà être d'un plan. Ça doit déjà être... Je sais pas.
Je pense pas que c'est d'un plan, parce que Blade, c'est pas nécessairement Spider-Man. Non, mais je trouve que ça a vraiment beaucoup d'allure que tu dises ça, surtout parce que ça vient d'une place intime, mais aussi parce que c'est cyberpunk.
Ouais, c'est ça, puis j'aime bien ça, puis ça fait longtemps que je veux écrire quelque chose qui tourne autour de ça, fait que moi, j'écrirais Blade 100%. Réalisé par qui, je sais pas, mais me dis pourquoi pas Jordan Peele, tant qu'à viser gros, là.
Ben, tu vois, pendant qu'on est en train de parler de Blumhouse, moi, la personne avec qui je travaillerais actuellement, c'est le réalisateur de Upgrade.
Ouais, pas fou.
Qui est actuellement en train de... Ben, je trouve qu'avec Upgrade, il a réussi à faire...
Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, donc? Il fait un nouveau truc. Non, mais c'est parce que j'ai lu quelque part, réal de Upgrade va faire quelque chose de quand même nice, mais je me souviens plus quoi.
OK, mais son le visuel de Upgrade fonctionnerait très bien dans l'univers de Blade.
100%.
Ouais, puis... tout en étant très proche, mais étant quand même assez actualisé.
C'est ça.
Fait quoi? Oh, wow! Ben, OK, moi, je veux entendre ce script-là. Je veux entendre.
Tu vas l'entendre, on va le faire une lecture.
Ah, wow! On devrait
au rendez-vous du cinéma québécois.
On fait un radio-roman.
Ça serait le best!
De Blade?
Ça me parlerait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais c'est parce que tantôt, quand tu disais je veux scénariser ça, je suis comme, OK, c'est moins dans le domaine du possible. Mais ça, un radio-roman ou RVCQ de Blade, c'est pas loin de ce qu'on est capable d'accrocher.
Oh mon Dieu, ce serait...
C'est dans notre reach. Là.
Ce serait fou.
On fait ça.
Ce serait fou.
On fait ça en honneur de Sylvain.
Wow.
OK. Merci énormément.
Ben, merci à toi. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, comme toujours.
Ouais.
J'aime ça. On prend des directions qui ne peuvent pas, puis c'est le best.
Cool. Ben, bonne pour toutes les... tout le monde qui écoute. Allez réécouter Blade.
Ben oui.
Vraiment.
Ça... Et le 2, on n'a pas beaucoup parlé du 2, qui est merveilleux. Est-ce qu'il y avait des taureaux?
Ouais, mais c'était-tu les mêmes affections?
Ben, c'est pas la même attache, mais non, c'est définitivement un meilleur film, là. C'est vraiment, vraiment un esti de bon film, Blade 2.
Puis il est encore dans
les... Je connaissais quelqu'un qui mesurait les films en Blade 2. Il disait genre, c'est un Blade 2 et demi. Puis il faisait ça avec la bouffe avec des Teen Burgers de IW. Je sais ça, c'était j'adorais ça.
On est rendu où dans...
Ouais.
Mais je pense que Blade 2 a vraiment amplifié toute la problématique paternelle.
Ouais.
Dans le 2,
définitivement.
Le papa shakespearien,
ouais, comme... Ouais. Vraiment, vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment.
Merci, Nick.
Merci.